ya nuestro pueblo se concientiza y los contrarios se escandalizan, aunque no quieran la sintonizan. Soy yo la voz de Zacate Grande que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. Soy la voz de Zacate Grande que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. Qué miedo tiene la oligarquía, que a este medio envió policías. Aún así se mantiene al aire, y aquí hay coraje, hay valentía. Se oyó la voz de Zacate Grande, que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. Soy yo la voz de Zacate Grande, que lanza al mundo ecos de esperanza. Nuestro dolor que se hace alegría, que vive el pueblo que se levanta. Los reporteros se movilizan.
Bien, vous êtes... Ah, il y a un petit problème. C'est parti. Oh, c'est pas possible. Bien, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et maintenant, vous êtes avec la Tribuna Latino-Americana, qui est née en 1982, grâce à Néstor Vega, anarcho-syndicaliste. Donc, on va continuer donc toujours son travail d'information critique sur les luttes des peuples andins originaires, afrodescendants et créoles qui vivent au centre et au sud des Amériques. Vous pouvez nous joindre pendant l'émission au 01 43 71 89 40 ou encore nous écrire à tribunalat@gmail.com. Bien, aujourd'hui, l'émission va être consacré à la 12e édition de la Carpa Literaria. La proposition culturelle de la Carpa Literaria a commencé à l'été 2013 comme une manière alternative de mettre en valeur les créations littéraires qui ne sont pas visibles ou sont absentes des agendas conventionnels. Il s'agit d'un festival poétique réunissant la diversité des voix, la célébration d'un art verbal vivant au-delà de toute frontière, un récital latino-américain mais aussi français et d'autres cultures. La Carpa est la confluence d'un art populaire où coïncident différentes langues et identités, un espace où le clivage artiste-public disparaît, où le public peut exprimer son intériorité et la transformer en art. C'est l'autre Paris, en marge des cartes postales, mais qui vibre, faisant germer les rêves qui naissent dans la diaspora à la poursuite d'un horizon commun de proximité hautement humain. Cette émission donc offrira la parole à Ivan Blas Hervias, auteur péruvien de poèmes et de récits. En 2018, il a commencé une collection de nouvelles, Contes de la diaspora, réunies dans des recueils au format passeport, composés de 5 nouvelles. Promoteur culturel dans la capitale française, il co-organise chaque année le récital La Carpa Literaria, avec une exposition de livres, des lectures à plusieurs voix, des performances, de la musique live et l'intervention de lecteurs-auteurs dans le cadre de la proximité et de l'échange. Au printemps parisien, Ivan Blas et le collectif Clip animent le récital participatif Estación Poética. Au cours de l'année, le groupe Clip promeut des présentations de livres, des rencontres artistiques et des vernissages. Ensuite, nous rencontrons Stéphanie Genti, qui est d'origine nord-américaine. Cet artiste combine son intérêt pour l'art visuel et la littérature avec un engagement politique depuis ses études à l'Université de Californie, Riverside, à l'époque de Ronald Reagan. Récemment retraitée après une carrière universitaire en France, elle écrit une biographie de Marilyn French, féministe de la deuxième vague, tout en poursuivant sa pratique artistique, la gravure, la peinture. Elle est également responsable de l'association La Goutte Verte ou Petit Jardin, et c'est elle qui a fourni l'espace pour la Estación Poética cet été. Ensuite, nous écouterons Alcide, qui est paraguayen. Il vit en France depuis près de 20 ans et connaît la Carpa depuis environ 5 ans. Il lit des poèmes en guarani, langue indigène et officielle de son pays. Il aime les poèmes sur la nature, d'autres sur les populations rurales. Enfin, Ada Matos, qui est franco-argentine, intermittent du spectacle. Elle vient d'une famille de musiciens et a toujours aimé la musique. En 1977, elle chante le tango avec Juan Carlos Cáceres et sort 3 disques. Elle travaille ensuite comme compositrice dans les années 90 pour des pièces de théâtre et notamment La Tempête de Shakespeare à Paris ou encore Prométhée enchaîné en Grèce. Elle revient au tango et maintenant elle est coach vocale. Elle interprète parfois ses propres chansons. Voilà, je laisse Maria enchaîner. Je sais qu'on avait un texte à lire, mais on le lira à la fin. Voilà.
Très bien. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, bonsoir. Nous avons un groupe très hétéroclite. et je pense que, de ce fait, ça représente assez bien l'esprit de la Carpa. Alors, on a à la fois donc, des personnes qui collaborent depuis plusieurs années. C'est le cas d'Alcides. On a des personnes qui collaborent avec la Carpa, qui ne font pas partie intégrante de la Carpa, mais qui sont presque comme intégrants. C'est le cas de Stéphanie. Et on a également une personne qui va prochainement collaborer avec la Carpa, et là c'est Ada. Donc voilà, c'est tout ce beau monde réuni. Et donc, je vais d'abord donner la parole à son fondateur, même si je sais qu'il n'aime pas que je ne prononce ce mot de fondateur. Mais à un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Pour donner à César.
Et donc, on va donner la parole à Ivan Blas, qui va nous raconter comment est née cette Carpa, dans quel est son contexte, dans quel contexte, et qu'est-ce qui s'est produit pour la naissance de cette Carpa.
Merci Maria, merci la radio et merci à tous de m'accompagner dans cette nouvelle édition. Comme je l'ai dit de manière presque comme une chanson, la Carpa c'est une construction et née à partir d'une nécessité de vouloir construire la participation justement des artistes et non artistes. On peut dire que la Carpa a surgi comme un défi pour rester dans une ligne alternative et à partir de cet appel à rencontrer, à trouver des voies qui sont dans le même espace, on peut dire, et que se rendre compte que sa voix, que son expérience fait partie d'un monde en commun et que la littérature, que la musique, que la peinture et des autres sortes de créations ne soient pas exclusives d'un secteur, on peut dire. Non? On parlait avec Alcides qu'en Amérique latine, malheureusement, nous sommes formatés, on peut dire, disons que la culture appartient à une classe à part. Mmh. Et bon, la Carpa, c'est un espace pour partager, pour ceux qui écrivent et ceux qui n'écrivent pas participent. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape d'affirmation. On avance, nous sommes déjà, nous avons 12, et je pense que nous vamos por buen camino.
Très bien. Donc, afin d'alimenter le débat, parce qu'on va tous discuter ensemble, ce serait bien de vous connaître un peu séparément. Donc, je vais commencer par forcément les jeunes femmes. On va commencer. Bah, Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer à la fois quel est ton lien avec la CARPA, comment est-ce que vous êtes connue, et après, qu'est-ce qui, toi, dans ton parcours, fait que tu as eu envie de collaborer avec eux, de façon à te connaître aussi un petit peu, parce que, comme l'a dit Lise, tu es universitaire, donc tu as étudié la question de la femme, donc on aimerait aussi peut-être aborder un peu ce sujet.
Tout à fait. Il faut dire d'abord que notre lien avec la CARPA, c'est grâce à l'association de jardins partagés dont je fais partie, qui s'appelle la Goutte Verte et qui est située à la Goutte d'Or, Paris 18e. Et nous avons rencontré les membres de la CARPA lors d'une séance de théâtre au jardin, parce que nous organisons souvent des événements au jardin. Et on a sympathisé avec Yvan et les autres membres qui étaient présents ce jour-là, et on a décidé juste de collaborer, d'organiser des événements ensemble. Notre mission à la Goutte Verte, c'est vraiment de végétaliser le 18e, enfin, surtout la Goutte d'Or, mais aussi le 18e plus généralement, et de créer du lien social. Ça, c'est très, très important pour nous. Et donc, en général, quand il y a un groupe, un collectif ou une asso qui a une idée, une envie d'organiser un événement au jardin, on dit oui, bien sûr, oui. D'accord. Et nous avons deux jardins, et le jardin Alain Bachung, qui est situé près de la chapelle, côté est de la Goutte d'Or, est un très grand jardin avec un verger, un grand espace d'herbe, une estrade, un auvent, enfin vraiment des espaces qu'on peut utiliser pour déclamer les poèmes ou pour organiser un concert. Voilà.
Et donc, comment s'est fait ce processus, justement, parce que ça a l'air assez insolite dans peut-être l'image qu'on a
du
18e avec la Goutte d'Or, justement, d'avoir deux espaces à la fois, d'après ce que je comprends, un peu écologique et à la fois artistique, écolo-artistique, si je pourrais trouver une définition. Comment était le processus pour ne serait-ce qu'avoir accès à ces jardins?
Ah oui, pour avoir accès, en fait, moi je suis arrivée il y a peut-être 4-5 ans à l'association, il y avait déjà une présence dans un jardin. On avait déjà une convention avec la ville de Paris pour un des deux jardins. Et puis, au bout de 3-4 ans, on a réussi à signer une convention pour l'autre, pour Alain Bachung. Et voilà, donc tout simplement comme ça, parce que c'est une association, enfin, la Goutte Verte, qui existe depuis 2007, donc qui a une histoire quand même à la Goutte d'Or, qui était très nomade au début. Nous allions de Dente-Creuse en Dente-Creuse pour créer des jardins, très nomades, des guerrilla gardeners, ça s'appelait comme ça, c'est dans l'histoire américaine de Brooklyn, etc. Et après,
on est parlé un peu de ça.
Je connais pas super bien.
D'accord.
Je sais que aux États-Unis, il y a eu des community gardens, mais que ça a commencé de façon assez anarchiste, dans le sens que c'était pas l'idée d'avoir un terrain qui appartenait à un groupe, mais c'était plutôt d'investir des terrains vagues qui appartenaient à personne ou qui étaient en attente de projets immobiliers, et de jeter des graines, de créer un jardin, créer un lieu de vie pour les gens qui vivaient aux alentours. Et puis créer souvent, ça allait vraiment, je pense, de pair avec la culture dès le début. Il y avait toujours de la musique, il y avait toujours des artistes, il y avait toujours... ça va de pair, un jardin, ça va de pair avec tout ce qui est création, je pense. Donc,
Et donc, est-ce que vous, vous avez un jardin potager, par exemple?
Oui, tout à fait. Il y a un potager dans chaque jardin. Mmh. Et puis un verger, des poules, un compost. Voilà, tout est écologique, bien sûr. Biologique, ça c'est sûr, pas de pesticides, etc. Voilà. Et puis au sein de notre association, il faut dire qu'il y a plusieurs artistes. Il y a plusieurs membres de Les Portes d'Or, parce que c'est une association d'artistes de la Goutte d'Or. Ça s'appelle Les Portes d'Or. Donc, il y a plusieurs membres de notre asso qui participent à leurs expositions chaque année. Voilà. Et puis, il faut dire que tous nos membres habitent à la Goutte d'Or. Donc, c'est vraiment une association qui reflète... bon, c'est un petit peu bobo... par moment, mais on œuvre pour faire en sorte que tout le monde, vraiment de toute origine, toute couleur, toute classe sociale, tout niveau d'éducation, que tout le monde soit bienvenu et se sent accueilli. Et voilà. Et voilà, je pense. Je ne sais pas quoi ajouter pour ça.
Et je me posais une question concernant, c'est à l'air libre. Donc, la France n'est pas forcément le pays où, comme l'Espagne, il y a plus de 300 jours de soleil par an. Comment est-ce que vous faites pendant la période creuse, entre guillemets? Est-ce que vous développez d'autres activités ailleurs?
Ouais. Non, même pas. On est vraiment des durs de durs. C'est-à-dire qu'on reste, on est dans le jardin.
Fidèle au jardin.
Toute l'année. On fait 3 permanences par semaine. Toute l'année, qu'il pleuve, qu'il neige. Oui, parce que c'est juste de l'eau. Enfin, on n'a pas peur du mauvais temps. C'est vraiment uniquement quand la ville de Paris décide de fermer les espaces verts qu'on ferme. Et encore. Et encore. Des fois, on reste quand même. Je ne devrais pas dire ça à la radio.
C'est familial aussi, c'est ça. Hein?
C'est très familial.
Pour que les enfants puissent aussi toucher un peu la terre, participer un peu. Hein? Ça, c'est important. Maman, ça. C'est vrai que c'est important.
Très important. Et les enfants à Paris, souvent ils n'ont pas un lien avec la terre. Absolument. Ils n'ont plus de lien avec la terre.
Et justement, quand tu parlais de lien social, quelles sont vos grandes réussites jusqu'ici?
Les grandes réussites. Moi, je dirais que notre première réussite, c'est de tisser des liens avec toutes les assos de la Goutte d'Or. Je pense, au fil du temps, nous avons créé des partenariats avec différents types d'assos qui travaillent avec des enfants, qui travaillent avec des anciennes toxicomanes, qui travaillent avec les sans-abri, différentes populations, des migrants, des Sénégalais, voilà, vraiment toute un arc-en-ciel d'associations très différentes, avec des missions différentes. Mais la Goutte d'Or, c'est très unique, je pense, pour ça. Parce qu'il y a un tissu associatif très dense. Et on sent vraiment qu'on œuvre tous ensemble pour le bien de la communauté. Il y a vraiment un sentiment de communauté, qu'on fait partie d'un grand village.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'activités à la Goutte verte?
Il y a bien sûr le jardinage et le bricolage, ça c'est un peu classique, mais on organise aussi des ateliers, par exemple, ça peut aller du dessin et la peinture à la création d'un herbier, ça peut être du bricolage, la création d'un banc ou d'une table, c'est très varié. Hôtel à insectes, nichoirs, mangeoires pour les oiseaux. C'est très 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 varié.
Et quelle est ta spécialité, si je peux?
Moi-même, j'ai un parcours un peu atypique, parce qu'aux États-Unis, j'ai créé en fait ma propre licence. C'est assez drôle, mais à l'Université de Californie, Riverside, alors c'est un bastion de marxistes terrible, enfin dans les années 70 et 80.
Quelle horreur! Ça nous fait peur!
Il y avait vraiment beaucoup, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais il y avait vraiment des professeurs qui étaient marxistes en sciences politiques, en littérature. Et voilà, c'était vraiment très chouette. Donc, j'ai pu créer une licence qui s'appelle Social and Political Art. Je suis la seule personne sur la planète qui a cette licence, mais ce n'est pas grave. Et c'est une licence que j'ai créée avec une équipe de profs. Et puis, je me suis imposée avec eux des épreuves, une expo à la fin de l'année, parce que c'était quand même une pratique artistique, mais qui était engagée. J'étais engagée à l'époque, en fait, pour soutenir la révolution au Nicaragua et puis en Salvador aussi, El Salvador. Notre groupe d'étudiants, c'était vraiment centré sur les luttes en Amérique centrale à l'époque. Et voilà, donc je faisais de l'art engagé avec l'ASSO, et puis c'était juste naturel de faire ça aussi comme, comme licence. Et puis ensuite, après j'ai étudié, je suis venue en France, j'ai étudié le français, je suis retournée chez moi, et puis c'est plus récemment, en arrivant en France beaucoup plus tard, que j'ai décidé de travailler sur le féminisme. Et voilà, je suis écologiste, mais je suis aussi féministe, et donc je travaille sur Marilyn French. J'écris sa biographie. Voilà.
Et alors, c'est pourquoi tu l'as choisie, elle?
Elle. Parce que c'est... en fait, ma mère m'a dit de lire son livre quand j'avais 18 ans. Et je l'ai lu. Et en fait, je travaille sur elle parce que elle a, je pense qu'elle a un message important aujourd'hui pour l'humanité, que ce soit dans sa fiction ou aussi dans son histoire des femmes. Un livre qu'elle a écrit aussi qui s'appelle Beyond Power, où elle critique justement le pouvoir, la soif du pouvoir et l'orientation, enfin, l'orientation vers la dictature, on va dire, le totalitarisme, qui est une tentation un peu partout dans le monde.
C'est un modèle pour
elle
toi?
Elle est créée, oui, absolument, oui. Absolument, oui. Donc, c'était d'abord une féministe, mais vraiment de gauche. Elle se disait anarchiste aussi. Et quelqu'un, je pense que sa parole est importante. Et comme elle est complètement oubliée aujourd'hui, c'est important de faire sa biographie et de la remettre un peu à l'ordre du jour.
Et elle est sortie, sa biographie, ou pas encore?
Non, du tout. J'ai écrit la moitié à peu près.
D'accord. Voilà. Et ça fait quelques années, tu me disais que ce projet...
Depuis 2016, oui, que je travaille dessus, oui. Oui, oui, ça fait plusieurs années. J'espère pouvoir sortir la biographie pour 2027, parce que ce sera la 50e anniversaire de son premier roman, qui s'appelle The Women's Room, sorti en 77, et qui a vraiment fait date. Qui a, en fait, on dit que c'est un livre qui a changé énormément de vie, qui a...
C'est un essai?
Impacté, oui. Enfin, non, c'est un roman. C'est un roman, mais qui a bouleversé l'Amérique à l'époque et qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, traduit en une vingtaine de langues.
Traduit en français.
Traduit en français. Et d'ailleurs, ça vient juste d'être republié par Lafont avec une nouvelle traduction qui est meilleure que l'ancienne traduction de 76 ou 77. Et donc, oui, je vous conseille de lire ce roman qui s'appelle maintenant, qui s'intitule Toilette pour femme. C'est Toilette pour femme.
Toilette pour femme.
En français. Toilette pour femme. Oui, donc réédité par Lafont.
Très bien. Et qu'est-ce que ça engage pour toi de. Justement, parce que j'imagine que si ça prend autant de temps, c'est bon, il y a aussi tes engagements personnels à la Goutte Verte et autres, j'imagine. Mais qu'est-ce que ça implique, écrire la biographie d'une femme qui est importante? Pourquoi, comment est-ce que ça se dessine dans ta vie?
C'est,
et au fil du temps.
Oui,
ce que
au
comprends.
Fil du temps. Ouais, ouais. Ben, il y a plusieurs années, après la thèse, j'avais tenté de publier un livre sur son œuvre, mais pas du tout sur sa vie, uniquement son œuvre et ses idées. Ça n'a pas marché. Et donc, j'avais un peu mis ça de côté. Quand elle est décédée en 2009, je me disais, waouh, il faudrait que quelqu'un écrive sa biographie, mais pas moi, parce que je me disais c'est trop énorme comme travail et je me voyais mal le faire. Et puis c'est la famille en fait qui m'a contactée après, parce qu'on était en contact, ils me connaissaient. Et donc en 2016 j'ai commencé cette aventure, mais ça a changé vraiment ma vie, je dois dire, parce que avec quelqu'un de cette stature là qui était vraiment porte-parole du mouvement féministe américain dans les années 70 et 80, dont une des meilleures amies, c'était Gloria Steinem. j'ai pu rentrer en contact avec des femmes de grande envergure aux États-Unis qui ont fondé Women's Studies, par exemple, comme Florence Howe, The Feminist Press, ça c'est Florence Howe aussi, Carol Jenkins, qui est quelqu'un de très important pour le journalisme noir, si on peut dire, média, vraiment, pour la visibilité des personnes noires, écrivains, etc. Gloria Steinem, enfin, tout un tas de personnes, et donc à travers le travail dans les archives, à travers les entretiens, ça m'a mis en contact avec des personnes vraiment incroyables. Et puis sinon, écrire une biographie, c'est vraiment comme un travail de détective. C'est ce que j'ai trouvé. Parce qu'on est vraiment à la recherche de toutes les histoires, toutes les anecdotes, toute la correspondance.
Les contradictions aussi.
Tout, ouais, tout. Il faut un peu tout savoir sur sa vie. Elle a vécu 80 ans. Et donc, il faut un peu... c'est passionnant, en fait. C'est vraiment passionnant. C'est très, très, très prenant. Et je pense, je m'imagine mal écrire quelque chose comme un roman. Je pense que j'aurais vraiment du mal. Je ne sais pas si j'ai beaucoup d'imagination, mais écrire la vie de quelqu'un et le... Oui, je ne sais pas exactement, le raconter, cette vie, narrer cette vie, je trouve que ça, c'est dans mes moyens.
D'accord.
Et donc, voilà. Donc,
est-ce que tu as réfléchi à l'idée dont... Tu allais présenter ce livre. Est-ce que ça va être par ordre chronologique, thématique?
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas du tout, c'est pas chronologique. En fait, je me suis dit ce qui serait le plus important, enfin, le plus intéressant pour le lecteur, c'est pour tout de suite attirer leur attention et grab the reader. Mm-hmm. C'est de raconter. Et là, j'invente un tout petit peu, mais de faire en sorte que deux personnes qui ont vraiment lu le manuscrit avant sa publication le fassent un peu le même week-end. Alors, je sais que les deux personnes, une copine de French et la personne qui devient par la suite son agent, ces deux personnes ont lu le manuscrit le même mois, mais je crée une sorte de prologue où c'est le même week-end et les deux femmes lisent. L'une dans le Massachusetts, l'autre à New York, à Manhattan, pendant un week-end intense, 800 pages. Et l'une, la copine, va être très en colère, elle ne va pas comprendre du tout le roman parce qu'elle est plus jeune, elle n'a jamais été femme au foyer, elle n'a jamais... Enfin, elle ne se voit pas encore vraiment comme opprimée, etc. Tandis que la femme, l'agent, qui a l'âge de Marilyn French, voit sa vie reflétée dans le livre. Et donc, tout de suite, elle envoie à Marilyn French, comment dire, une invitation pour devenir sa cliente. Et puis, elle fait les démarches pour publier le livre. Et donc, en fait, je commence par ce condensé de week-end de lecture et de réactions très, très divergentes pour ensuite rebondir sur la genèse de ce roman. Et après, je fais un backtrack, je rewind, voilà, oui. Et je reviens un peu sur son enfance, sa naissance, son enfance, mariage, etc. Et puis après, la troisième partie, c'est consacré vraiment à sa vie d'écrivaine best-seller, célèbre, voix du féminisme américain, des voyages.
Déjà très avancé. Hein.
Ah oui, 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 non.
Non, oui, c'est pas mal.
Bon, on sera ravis d'avoir de tes nouvelles lorsqu'il paraîtra. Hein, et on peut comprendre aussi que tes engagements se poursuivent ici en France d'une façon un peu différente, mais pas en contradiction. C'est vrai qu'on avait fait, avec Lise, on avait rencontré un biographe également sur la vie d'un...
De
Martín Almada.
Le découvreur des archives du plan Condor.
Voilà, pour lequel tu recherchais, il me semble,
un éditeur.
Et c'est vrai que dans son témoignage, il avait totalement bouleversé sa vie. Parce qu'il habitait...
Au point d'aller vivre au Paraguay.
Voilà, il est parti vivre au Paraguay pour le rencontrer, pour lui faire des entretiens, etc., etc. Mais aujourd'hui, il habite encore là-bas. Enfin, Martín Almada est mort, malheureusement, mais il est encore là-bas. Et c'est vrai que...
Il a fallu 10 ans.
Voilà. 10 ans de recherche pour, enfin, comme tu dis, d'investigation.
C'est
10
ans,
que...
ouais. C'est ce qu'on dit, 10 ans.
C'est ça.
Oui, c'est ce
donc,
qu'on dit,
je retrouve dans ce que tu me dis un peu cette inquiétude, à la fois d'avoir le plus d'éléments possible, mais à la fois ne pas trahir aussi la personne avec ses contradictions, ses, parce qu'il y a un peu de ça aussi. Et avoir le plus de témoignages possible. Donc voilà, donc tout très bien. Alors, Ada, c'est à ton tour. Peut-être que tu veux commencer en chantant quelque chose.
Je vais commencer avec une chanson autobiographique dont j'avais écrit le texte. Tu sais, je te disais, là, par rapport je ne crois pas que ça soit de la poésie, mais c'est juste un texte de chanson, c'est-à-dire qu'il accompagne quelque chose. C'est un tout. Hein, une chanson, c'est un mariage, n'est-ce pas? Entre, donc, une idée...
Ouais.
Et le souhait de raconter une histoire et un côté conteur aussi et puis et le fait de oui c'est ça, trouver une mélodie, une façon de l'accompagner musicalement disons, c'est tous ces mots et donner du sens à tout cela. Donc cette petite chanson qui est née longtemps après là, le livre là, que j'avais écrit sur l'autobiographie romancée comme on dirait aujourd'hui. Puisque on raconte son histoire, mais est-ce qu'on la raconte ou est-ce qu'on la raconte vraiment? Donc on y va.
C'est a cappella, je tiens à préciser.
Oui, on n'a pas de musiciens, donc on y va quand même. Let's go. Allez. Cuando yo era chiquitita, mis padres me golpeaban. Ahora que ya soy viejita, mis hijos me maltrataban. Ay, tu tiro ti. Ay. Tú tiro un tiro. ¿Dónde te escondiste, Dios, para no ver mi dolor? Ni los gritos, ni las lágrimas de desesperación. ¡Ay! Tú tiro un tiro. ¡Ay! Tú tiro un tiro. Tres angelitos pulientos vendrán a buscarme pronto. Por fin tendré calmo reposo. ¡Ay! Tú tiro un ti. Ay, tú tiro un ti. ¿Dónde te escondiste, Dios, para no ver mi dolor? Ni los gritos, ni las lágrimas de desesperación. Ay, tú tiro un ti. Ay, tú tiro un ti. Ay, y tú tiro un ti.
Bravo.
Émouvant.
Oui, très émouvant. Alors, Adama Tous, tu viens d'une famille de musiciens.
Absolument.
Plutôt folklorique.
Oui, c'est ça, c'est la chanson traditionnelle d'Argentine. Et que mon père, qui était vraiment un bon compositeur, un grand musicien...
Oscar Matus.
Oscar Matus a souhaité donc l'amener vers le... la musique engagée, parce qu'il tenait absolument, malgré qu'il n'écrivait pas des textes, hein, il tenait absolument à donner du sens à la musique. Et il s'était imprégné énormément des cultures autres que les cultures indiennes, disons, originelles. Et il s'est laissé bercer aussi par le rock, par le jazz, par la musique classique et occidentale, donc. Et il a voulu l'amener plus haut, le faire voler, s'envoler. Et pas rester comme ça un peu... comme la musique un peu minimaliste, disons. Lui, au contraire, il voulait mettre des harmoniques, des choses très riches, n'est-ce pas? Travailler les mélodies au maximum. Et donc, de ce mariage magnifique est née donc la naissance de cette interprète formidable, qui était maman, qui était Mercedes Sosa. Et elle a su vraiment porter ses chansons, ses textes, ses mélodies, avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de justesse. Et c'est vrai que avoir ces deux géants là à côté, c'était un peu dur, quoi. Et en même temps, très fort, parce que ça te met la barre très haut. Donc, après, tu dis, tu vas faire de la musique. Ben non, vraiment, non, je ne veux pas faire de la musique après mes parents. Je ne pourrais pas composer mieux que mon père. Bon, j'ai fait cette petite chanson là, et d'autres, je ne sais pas, une quarantaine, dans tout. Et puis, chanter mieux que ma mère, techniquement, c'est impossible. Donc, à partir de là...
C'est vrai que la barre est très haute.
Ben oui, la barre est très haute.
Tu la connais?
Et donc, à partir de là, quand tu te rends compte que la vie est faite aussi de toutes les rencontres qu'on va faire, tous les gens, tous les pays, tous les peuples qu'on va côtoyer. Et c'est grâce à eux, en fait, qu'on va se... Ils vont nous modeler, hein, vraiment comme une sorte de terre d'arcilla, comme ça, qui sera travaillée. Et c'est vécu, disons, que les parents n'ont pas eu. Et nous avons cette chance de le vivre. Moi, j'ai eu une chance inouïe de me trouver en Europe, étant donné la situation politique en Argentine, tout simplement. Mais mon père devait partir, devait sortir d'Argentine. Et donc, moi, j'étais toute petite et je l'ai suivi. Je suis venue avec lui. Et en attendant, le couple s'était déjà dissous. Ils étaient donc séparés. Et donc, il y avait les autres enfants. Et voilà, ça s'est arrangé un par un, disons. Hein, ce qu'on allait faire, la destinée de ces enfants. Et moi, cette rencontre avec l'Europe a été vraiment un bonheur absolu. Et je suis très, très heureuse d'être ici. Je suis une émigrée, disons, contente, tu vois, parce que des fois, on a des amis qui sont un petit peu forcés, les pauvres, et même d'autres horriblement forcés, et ils se sentent un peu contrariés dans leur destinée. Moi, c'est pas mon cas. Je savais vraiment pas ce que je voulais, mais je voulais, en tout cas, mettre beaucoup de distance entre mon pays d'origine et ma vie, disons, à vivre tous les jours. Et cette chance inouïe de voyager physiquement et culturellement ailleurs, cet ailleurs me plaisait d'avance. J'étais amoureuse de cet ailleurs. Je l'ai épousé avant même de le voir, de le connaître. Donc c'était des belles épousailles et je suis vraiment très heureuse donc, d'être ici.
Et... Pas de divorce, hein?
Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le divorce, il marque juste une fin. Et puis on recommence après. On se remet la robe de mariée et hop, c'est parti, mon kiki. Pour un deuxième, un troisième, un quatrième tour. Et puis c'est tout. Donc, c'est-à-dire que dans la réalité, je suis veuve aussi. Et donc, des fois, c'est nos compagnons qui nous quittent. C'est pas nous qui les quittons, n'est-ce pas? Des fois, la mort est plus rapide que nous. Que notre amour n'est pas suffisant, disons, pour le contrecarrer. Mais bon, c'est comme ça. C'est des vies pleines, c'est des vies avec beaucoup de tendresse, d'amour, de créativité. Et moi, en plus, je suis tombée amoureuse de l'état maternel, disons. Je voulais être mère. Alors, ce qui avait une sorte de contradiction, disons, à principe, à la base, puisque je voulais être artiste, et mon père me disait toujours, non, il ne faut pas être mère. Si tu veux être mère, tu ne seras pas artiste. Et si tu veux être artiste, tu ne seras pas mère.
C'était pas compatible.
Non, c'était impossible. Pour lui, c'était absolument, mais vraiment, impossible. Et moi, j'étais suffisamment gourmande pour me dire, si, je veux tout. Je ne vais pas choisir.
Être mère et artiste.
Ouais. Voilà, comme beaucoup de femmes. Pas question comme que je choisisse.
Ouais. C'est vrai.
Donc, c'était drôle. Et en même temps, bon, voilà, je me battais contre mes propres moulins à vent. Hein, parce que c'est moi qui avais créé, aussi j'avais accepté ces interdictions parentales. Et ma mère était catastrophée quand elle a vu que j'étais enceinte la première fois. Elle m'a dit, ma femme, pourquoi tu fais ça? Maintenant, c'est tellement facile d'avorter. Je dis, mais je ne veux pas. Il n'en est absolument pas question. Enfin, c'est niette. Et donc, je veux être maman. Il n'en est absolument pas question. Et donc, après, quand elle m'a vu allaiter, tout ça, elle était complètement. Elle était hyper déçue. Il a dit, non, mais pourquoi? Pourquoi tu t'infliges ça? Et donc. C'est bien, c'est une bonne chose qu'on peut dire comme aux amis auditeurs, c'est que c'est important aussi de décevoir un peu nos parents. Alors, si faisons-le allègrement, en général, ça marche. Ça marche, oui.
Très bien. Et donc, concernant ta future collaboration pour la Carpa Literaria, donc on va annoncer tout à l'heure, mais on peut déjà l'annoncer, le récital Voix de la Diaspora, Voces de la Diaspora, le dimanche 22 septembre, à partir de 16h, dans un endroit que normalement ne vous est pas inconnu, le CICP, 21 Terre, boulevard Voltaire, rue Voltaire, voilà, à Paris, métro, rue des Boulets. Donc, tu vas y participer, savoir dans justement la Carpa Literaria, qu'est-ce qui peut t'attirer dans... Tu as parlé un peu de multiculturalisme, de ta propre expérience d'exil.
Oui, et puis surtout du fait que, enfin pour moi, hein, je veux dire, les lieux culturels comme ça, c'est important pour pouvoir côtoyer, comme on dit, nous les artistes, on dit se frotter à d'autres artistes, c'est-à-dire voir d'autres techniques, d'autres approches, d'autres lectures du monde. Le monde est vaste, il est énorme. Il y a plein de strates, n'est-ce pas, des couches successives. Et donc, pouvoir y aller et creuser dedans, vraiment découvrir de nouvelles façons d'approche, c'est vraiment très riche. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Regarde, quand j'ai rencontré Cáceres, qui m'a dit viens chanter le tango avec nous, il m'a sorti de la musique traditionnelle, il m'a amené vers la musique citadine. Et le tango de Buenos Aires est un tango vraiment, disons, de musique de grande ville, n'est-ce pas? Dans lesquelles, bien sûr, c'est l'amour, surtout, qui est important.
Que romantique.
Ay, que romantique, cette mujer, por favor. Mais bon, ben voilà, donc on a été... j'étais happée un peu par cet élan, disons, dans lesquels il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de discours à tenir, mais il y avait à caresser, à séduire, à raconter des histoires d'amour déchirantes ou très douces, très, très joyeuses. Et c'est de cela dont il s'agissait dans le tango. Ça m'a plu, j'ai joué le jeu, je me suis déguisée en femme mondaine, je me suis mise des grandes robes, beaucoup des talons, la jupe bien fendue sur les côtés jusqu'à la culotte. Donc vas-y, tu veux regarder des jambes, regarde-les, vas-y, donne-toi cœur joie. Et nous, on le faisait avec une joie incroyable, parce qu'en train de décolleter des vents et la jupe sur le côté, on voyait tout. Hein. Il n'y avait pas grand-chose dégagé. Donc, mais c'était une joie de se déguiser, de se mettre des perruques. Alors moi qui étais féministe, parce que j'étais très très féministe, c'est moi qui décide ce que je veux, je suis passée de ça à me déguiser en femme facile, en femme fatale, en femme, n'est-ce pas, parce que les femmes des tangos, c'est ça en fait. Et m'amuser aussi de me voir changer de chapeau, changer de perruque, me mettre des fossiles, construire cette féminité qui est toute artificielle et qui est une joie incroyable. Et je me suis jetée des temps comme une sorte de piscine d'amour comme ça, dans lesquelles tu veux tout, je veux absolument tout. Et donc là, je voulais, alors qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des fossiles, ok, des plus longs, je veux les plus longs. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Des talons plus hauts, je veux les plus hauts, tu vois, vraiment. Et donc, tu vas comme ça et tu te rends compte que tu es aussi là, que aussi on peut être une femme forte, et tout en jouant de tes fantasmes et des désirs des autres. Et cette découverte aussi, ça m'a beaucoup fait du bien, vraiment. J'étais très jeune et j'étais un peu roots, disons, avec mes deux nattes comme ça, ma gueule d'indienne, et donc du coup devenir une femme comme ça très sophistiquée, c'était rigolo, quoi. Tu vois, la brune comme ça, ténébreuse, dangereuse. Alors vraiment, c'était rigolo. Et ça, ça a donné, par exemple, des morceaux comme celui-là. Tu sais, tu connais peut-être Astor Piazzolla. Tu sais, c'est un compositeur argentin qui a composé beaucoup de tangos.
Il faut demander à Ivan, qui a vécu à Buenos Aires.
Ah, oui, bien, allez, Ivan, vamos. Tu connais, alors, qu'est-ce que tu avais entendu? Tu te rappelles de... Parce qu'il est un musicien aussi, il nous le cache. Mais il est musicien.
Mais tu peux chanter un petit air de Portaciola, si tu veux. Comme
question,
ça.
C'est Cambalache qui a écrit Piazzolla?
Non, ça c'est beaucoup plus ancien. Ça, c'est pour l'ancien. Alors, il a écrit, donc quand il est venu à Paris, il s'est aperçu que le frein de la langue était vraiment quelque chose de très difficile, compliqué. Les Français n'ayant pas beaucoup d'opportunités de parler correctement les langues latines, autres que le français. Donc il s'est dit, oh, on a des amis qui viennent nous visiter, c'est génial. Alors, oui, merci. Cáceres, c'est très bien. Alors, donc...
Un titre.
Oui, bien sûr. Alors, il a écrit donc Crime passionnel avec Pierre Philippe, qui est un poète français, Pierre Philippe, et Astor Piazzolla. Donc, on va faire un des titres de Crime passionnel, qui est un spectacle entier. Hein, c'est 1h20, non-stop. Moi, je l'ai fait comme ça, non-stop.
Ah, tu vas chanter là tout de suite, 1h20?
Tout de suite. Non, pas 1h20. Là, je vais vous chanter un tout petit morceau de Crime passionnel.
D'accord. Et après, on va. Peut-être que ça faisait partie. On pourra écouter peut-être un peu. D'accord. Après. On fera une petite pause musicale. D'accord.
Oh, toujours m'interroger sur ton amour, à t'espionner pour mettre à jour les secrets de tes chambres fortes. J'ai fini par faire qu'il soit moins respirable l'air et qu'elle soit trouble l'eau claire. Baignant les choses qui nous portent, j'ai beau raisonner, tant
tes débuts de passionnés et trouver disproportionnés tous ces indices qui t'escortent. Je fais surveillance entre la honte et la défiance, guettant tes moindres défaillances, écoutant ce que l'on colporte, ce que le vent lui-même emporte. Qu'a-t-il de plus nouveau que moi? C'est tout nouveau film que tu vois, et qu'a de plus inédit que nous, l'écharpe neuve que tu noues. Dis-le-moi, tu sais que je peux tout entendre, avoue-moi ce que je ne veux pas surprendre, parle-moi, je te promets de tout comprendre, réponds-moi, si tu ne te retournes pas, je suis si grotesque, n'est-ce pas, sur tes...
Bravo!
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 Ah, ça fait peur, hein, bien cela.
Très bien. On va faire une petite pause musicale.
Je voudrais qu'Ada choisisse un des titres.
Ah! Alors, non, dans celui-là, je n'ai pas participé, mais je comprends que vous les miens. Ils sont très beaux, hein, vraiment. Alors, je dirais plutôt. El candombe balón.
C'est le numéro?
Numéro 10.
Numéro 10.
Numéro 10. Donc Juan Carlos
Cáceres.
Cáceres.
On y va.
On écoute. Première petite pause.
Ok.
Ça va comme ça.
Royaume de Julos, on prend des coups et des bosses, mais on prend de la joie aussi, Fifi. Si tu savais comme je regrette d'avoir pas su tenir ta main, même un petit bout de chemin. Dire que je t'avais presque oublié, Fifi. Puis voilà que je tombe sur une vieille lettre au fond d'un carton à godasse, avec la photo de la classe.
Ça, je viens juste d'arriver. Je suis glacé, seul, avec un passeport usé. Oh, j'éclate.
Je suis désolée, je vais... Comment ? C'est bizarre parce que on a bien passé le... l'autre. Je change de...
Tu as approché la carpa et pourquoi tu t'es senti à l'aise dans ce collectif?
Ouais. Bon, Alcides est paraguayen, bah, presque 20 ans en France. Et
20 años no son nada.
20 años no es nada.
Ça passe très vite. Et donc, voilà, la carpa, ça fait presque... Même si j'ai milité depuis mon arrivée en France dans le milieu associatif, et je ne connaissais pas la carpa, mais ça fait 5 ans à peu près. Et comme disait et IBAN tout à l'heure, c'est un espace multiculturel qui a une passion en commun, je crois que c'est les paroles, la poésie, donc j'aime beaucoup la poésie, même si je n'écris pas, j'adore la poésie. Donc, c'est des espaces de plus en plus nécessaires dans la société qu'on vit maintenant, le contexte qu'on vit maintenant, des méfiances par rapport aux étrangers, aux migrants, tout ça. Ça, c'est, pour moi, c'est un vrai défi de sociétal, en fait. Et la CARPA, c'est un espace, justement, qui joue ce rôle-là. Et donc, pour moi, c'est très important. Et cette année, il s'appelle Diaspora. Et donc, Bosses de la diaspora, et ça veut dire diaspora, c'est, il y a un sens pour les gens d'origine étrangère qui on est là, mais aussi il y a un sens pour les Français, pour les pays qu'on a décidé d'habiter et de vivre. Donc c'est très important, et voilà, Bosses de la diaspora. Et puis personnellement, pour moi, c'est très important, et aussi la CARPA, c'est de montrer mon identité métisse. Mm-hmm. Je viens de Paraguay, l'Amérique du Sud, et on dit le Paraguay, c'est les pays, etc. Mm. Les pays, etc., c'est parce que quand les gens parlent d'Amérique du Sud, ils disent Argentine, Brésil, etc., etc., etc. Personne connaît le Paraguay, et pour moi aussi, c'est une opportunité de présenter un peu mon pays. Je pense que c'est le seul pays en Amérique latine qui a comme langue officielle une langue indigène, donc voilà, le Guarani. Oui.
Et tu parles le Guarani?
Je parle, oui. Je perds, parce que une langue qu'on ne parle pas, il meurt. Depuis que j'ai connu la CARPA, c'est, même si j'ai perdu beaucoup la prononciation, parce que c'est très guttural.
C'est vrai.
Et voilà. À chaque fois que j'ai l'opportunité à la CARPA ou ailleurs, j'essaie de lire des poèmes en Guarani. Je ne suis pas poète, mais j'ai une amie qui est la poète la plus connue en Paraguay, s'appelle Susi Delgado, qui a présenté son livre à la UNESCO, ici aussi, à l'INALC aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça mon parcours en France, et aussi mon histoire avec la CARPA, quoi.
Et justement, toi qui connais un peu cette langue, le Guarani indigène, qu'est-ce qu'elle a de différent, de distinct des langues latines? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à la fois la richesse, la complexité peut-être de certains mots? C'est une langue orale surtout.
Oral et écrite aussi.
D'accord.
Ouais, c'est les jésuites qui ont donné la grammaire à la langue, au 16e siècle, je crois. Et qui est différent, c'est complètement différent. Une langue latine est très gutturale, et la grammaire est complètement différente. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une identité, en fait. L'identité qui est pendant la... qu'il faut qu'il soit de plus en plus parlé, même si le 90% de la population au Paraguay le parle. Et voilà, il faut que ça ne se perde pas. Que pendant la dictature qu'on a vécue au Paraguay, il était presque... Il ne voulait pas qu'on le parle, donc voilà.
C'était interdit, ouais.
Oui, c'était interdit. Mm. C'est pour ça que, pour moi, c'est très important. Et... pour le moment, et toujours aussi pendant la période de la colonisation espagnole, aussi c'était interdit. Donc la haute classe au Paraguay aussi, il évite de parler. Et voilà, c'est un peu classiste aussi. Il y a le côté classiste au Paraguay, la société, la haute société qui ne voulait pas parler. Donc voilà, c'est un peu...
C'est une langue de résistance, tu trouves?
Tout à fait, tout à fait.
Très bien.
Qui nous a beaucoup aidé pendant les... Voilà. C'est ça.
Mais tout à l'heure, on aura le grand privilège d'écouter, d'entendre Alcides qui va lire un poème tout à l'heure en Guarani. On fait peut-être une pause musicale avant...
Tango, Guarani.
Ah bah écoutez, on va essayer. Hein.
Voilà.
Oui, on va essayer. Très bien.
Toujours à l'écoute de Radio Libertaire avec la Tribuna latino-américaine.
Très bien, merci, merci Lise. Donc, très joli hein, le Guarani. Est-ce que tu peux nous dire ne serait-ce qu'un quelques mots pour te présenter en Guarani?
Si, claro. Sheha e Alcides, Shaiko Franciape, Se ahí ape pendendie paripe c'est une présentation guarani très classique. Je m'appelle Alcides et je suis avec vous ici à Paris.
Non mais on a tout compris.
On a suivi, on a suivi.
Il y avait des mots transparents
aussi. Je suis très content d'être avec vous ici.
Voilà. Mais nous aussi, nous aussi, très bien. Et justement, bah là, on va donner la parole à Ivan, toi qui recrutes, on ne te voit pas, mais tu es dans l'ombre, dans les manifestations, dans les événements, il y a toujours un Ivan qui se cache. Alors, dis-nous justement, comment est-ce que tu vois justement cette intégration de nouveaux membres, ces nouvelles collaborations, là, la connaissance de Adama tous aujourd'hui, parce que vous étiez déjà en contact, mais là, tu la découvres. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, justement ?
Il y a quelque chose de merveilleux dans ce processus, on peut dire, de nous redécouvrir. Mm-hmm. Parce que nous sommes un continent qui n'a pas de contact sur place.
Absolument.
Ça veut dire que Paris aussi nous donne la possibilité de nous reconnaître. Et aussi de belles surprises, comme aujourd'hui. De voir la fille d'une artiste référentielle. Et en plus, chaque fois, je pense que nous avons besoin de renforcer l'identité, mais une identité qui soit si large. Absolument. Mais cette identité aussi, ça veut dire qu'il faut la construire à partir des symboles de peuple. Et Mercedes Sosa, c'est un symbole continental, non ?
C'est vrai.
Et je pense que il y a quelque chose qui a dit de si important Alcides, par exemple. La fin, en tout cas, de la carpe, c'est d'utiliser la parole, de donner la parole. Et justement, le projet a été d'être une tribune, on peut dire.
Oui, absolument.
Pour tous. Et justement, sans marginaliser l'artiste, mais que les artistes soient tous dans la même parallèle, on peut dire, pour casser un petit peu dans ce moment le phénomène d'égocentrisme, d'individualisme. Ça veut dire qu'une activité que propose la CARPA, ça veut dire que tous pouvons avoir la parole. Mm. Parce que nous avons besoin de notre parole, en plus que... on peut dire d'identité, de recherche, d'une identité, d'affirmer aussi que le seul véhicule, on peut dire, pour nous comprendre, heureusement, l'Amérique latine, il y a une seule langue. Et même s'il existe au Bolivie, au Pérou, le Quechua, mais il faut reconnaître que nous avons une langue en commun. Et ça n'empêche pas d'être hospitalière avec des autres communautés, comme l'allemand, qui fait partie de notre amie Carola, ou Combilé, qui vient de Mali, par exemple. Mais c'est une manière aussi de renforcer les liens entre nous. Et oui, c'est la parole. Je voudrais dire aussi ce détail, que dans cette construction culturelle, l'idée, c'est aussi à Paris, surtout dans une ville cosmopolite, d'aller aux rencontres des autres voix, on peut dire. Non? Et c'est le cas nous avons connu l'association de Stéphanie, la Route Verte. C'était pour nous, tu vois, une sorte de. Voilà, un autre espace qui nous permettra aussi de travailler ensemble, de travailler dans une confluence. Et c'est pas que je me cache, parce que c'est un côté peut-être, c'est ma fonction aujourd'hui, un peu prétentieux, de travailler dans l'architecture, on peut dire.
C'est très bien, mais c'est le fond,
non?
Les structures.
Et parce que j'ai confiance à Irina, à Combilé, à Carola, à Alcides, Emma, toi, tu vois. Et que je pense que petit à petit, on va créer notre fonction. Mais dans... la spontanéité aussi.
Très bien.
Oui, absolument.
Justement, on va parler peut-être des différentes activités que propose la CARPA, de façon à s'en faire peut-être une idée un peu plus élargie, pour après, ensuite, parler de la CARPA 2024. Donc, dans les événements que propose la CARPA, j'avais noté Station Poética, Fragnol, et les présentations de livres. Est-ce qu'il me manque quelque chose?
Oui, il y a, on a parlé un moment, je pense que nous avons besoin aussi, au-delà des événements qui sont bien, parce que on parlait avec Alcide, on s'amuse bien aussi. Il y a des moments, chaque présentation de livre finit avec la fête, finit avec cette fête de cœur aussi, de connaissance. Mais nous avons un projet qui s'appelle Talleres para Pensar.
Ok. On va commencer par celui-là.
Oui.
Alors, Talleres para Pensar, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste?
C'est un projet qui consiste vraiment aussi à avoir des sujets et que qui soit d'une manière horizontale aussi, un sujet que pour réfléchir tous autour d'un le féminisme, l'écologie, la politique, tous les sujets qui sont aujourd'hui dans l'atmosphère, on peut dire, et que on peut participer de manière aussi libre. Sans avoir un format de conférence ou de. Non, simplement comme un atelier, mais où tout le monde participe avec ses petites idées, ses petites informations, et inviter bien sûr quelqu'un qui connaît un petit peu.
Alors, est-ce qu'il y a un thème qui est préétabli à l'avance? Est-ce que le thème se choisit sur place?
Pour l'instant, on va choisir un sujet que. On va commencer pour la maison, on peut dire. On peut partir de. Le processus de création, par exemple.
D'accord.
Hein? Comment tu le vis, comment tu le...
Qu'est-ce que ça implique?
Oui, oui.
Voilà. Très bien. Et donc, ces talleres para pensar, ils seront effectifs à partir de quand?
Après le mois de septembre, nous serons là... Je communiquais, je pense, dans la dernière réunion. Nous serons la sorte de voir la... Ça sera bien dans les petits jardins, non? Il fait froid.
Ah, mais ça tombe bien, là, Stéphanie.
Oui, exactement. Je regarde l'agenda. Je regarde l'agenda déjà, là. Un créneau ouvert.
Très bien, super.
Avec chacun, avec son...
Oui, on résistera
au parcours.
Voilà, c'est bon, comme toi, plein de couches.
Ah oui, voilà, c'est ça.
On pourra l'annoncer alors.
Oui, on pourra l'annoncer.
Oui, merci. Et c'est dans un endroit qui s'appelle Jean Nico. C'est une association qui va nous prêter l'espace pour.
Très
bien. Et ce sera comme ça, de manière progressive.
Sur la création, donc le premier atelier. Hein.
Tu voudras venir?
Et pourquoi pas, bien sûr, un atelier, donc, un atelier sur la création.
Oui,
très bien. Pour la penser.
Quand tu as dit à penser, j'ai pensé philosophie, tu vois. Quand il a dit penser, j'ai pensé philo. Mais en fait, non.
Mais tu peux venir avec ta philosophie aussi, hein, parce que je sais que tu es revenue sur les bancs de l'école.
Ah bah oui, je suis une jeune fille, maintenant que je suis à la retraite. Et donc, oui, la Sorbonne m'a accueilli très gentiment.
Voilà.
Et donc, maintenant, je suis étudiante, d'accord. Yes.
On arrête d'être étudiante.
Ah ben, non, j'espère que non. Non, enfin, la carcasse est vieille, mais la tête, elle résiste.
Non, c'est tout sont des expériences. Je pense que chacun a des expériences. Et je pense que c'est nécessaire aussi de les partager. Parce que... réfléchir ensemble, je pense que c'est une autre nouvelle expérience.
Et c'est stimulant aussi.
Oui, oui, oui.
Est-ce que le fait de parler de créativité, de création ensemble, est-ce que ça ne pousse pas aussi à la créativité?
Oui, j'espère que les gens aussi soient conscients que même dans ces petites trajectoires, même s'il n'a pas réussi à... Mais je pense qu'il compte beaucoup la lecture de chacun aussi. Non? Et je pense qu'il faut casser ce format, non? De dire non, il faut le faire de manière académique. Parce que l'académie, il y a sa propre format, sa propre structure.
Et ses propres limites.
Oui. Mmh. Et je pense que la CARPA peut proposer ça de manière modeste, mais qu'il soit faisable.
Très bien. On va parler d'une autre activité que vous proposez. Là, je vais donner la parole à Alcides concernant le frañol. Comme tout le monde l'a compris, c'est la contraction entre le français et l'espagnol.
La CARPA, en fait, c'est un concept. Il n'a pas un espace physique. Donc, comme tout à l'heure l'a présenté Stéphanie, c'était un espace qu'elle nous a proposé, c'était le petit jardin. Après, il y a le CICP, il va être la Carpa 2024. Et aussi, on a la Bâche Bleue, c'est une association qui est au 19e. Mm-hmm. Et voilà. Et le Fragnol, d'habitude, on le fait là-bas.
Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu?
Voilà, et le Fragnol, comme tu disais, c'est les jeux de mots français-espagnol. Ouais. Et voilà, c'est un espace de partage, de poésie. Et ça ne veut pas dire, il n'est pas limité qu'en français ou en espagnol.
C'est pour montrer qu'il y a un mélange.
Voilà, c'est une scène ouverte, les gens disent lire des poèmes en anglais, en russe, en allemand.
C'est
voilà.
En croate.
Voilà, et ça c'est un espace Fragnol qu'on le fait, surtout je crois que ça dépend des places qui nous donnent les espaces, voilà, qui sont disponibles. Ouais. C'est plutôt les vendredis et comme ça. Et à la fin, on fait un petit peña, les gens, les amis musiciens, ils jouent de la musique et voilà, tout le monde est content.
Tu pourras venir chanter.
Voilà.
Donc, il y aura des musiciens à la prochaine.
Wow, c'est bien, ça.
La prochaine date, on va vous donner bientôt. Voilà, ça va dépendre de disponibilité.
Très bien. Donc, il y a également, dans les événements proposés par la Carpa, la Station Poética. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot?
Oui, la Station Poética, justement, cette année-là, a été, je pense, vraiment belle, parce que aussi c'est nature et culture. La Station Poética, on a parlé avec Stéphanie, justement, l'ambition, c'est que soit un espace aussi ludique. C'est pas uniquement quand les gens voient la poésie, pensent que c'est texte, c'est livre. Non, alors que la poésie, c'est un univers si large. Et que si tout va bien, je pense que oui, l'année prochaine sera la Station Poética avec des participations, des jeux, d'ateliers, des présentations, d'expositions de livres de manière plus large. Cette année-là a été difficile à cause du contexte politique, mais l'idée de le faire dans un espace comme à la Goutte Verte, ça nous permet aussi de proposer quelque chose de certaines libertés, de certaines...
Très ludique, en fait.
Oui,
hein, ludique,
oui, hein, que la gente juegue, qui récupère un instant d'enfance aussi, pourquoi pas, parce que c'est nécessaire aussi, parce que parfois on prend la vie de manière tellement sérieuse, et je pense que ça limite notre contact humain. Justement, comme dit Alcide, la carte, c'est une conception, et de dire, tous avons une potentialité. Il faut stimuler cette potentialité, mais de la manière plus sincère. Et je pense que la Station Poética, c'est une carpa d'été, on peut dire. Une carpa de printemps, en tout cas. Oui, parce qu'il fait beau, je pense que...
Et justement, Stéphanie, c'était la première collaboration de la Station Poética. Quel souvenir tu en gardes? C'était il n'y a pas longtemps.
Ils ont fait deux stations poétiques dans le jardin. Et le premier, c'était un petit peu timide. On cherchait nos repères.
À cause du climat, non?
Oui, ouais, je pense qu'il a fait un peu mauvais. Il y avait moins de monde que pour la deuxième. Deuxième, c'était là où on était, confiants. Oui, on se connaissait. Oui. On connaissait le format. Pour nous aussi, à la Goutte Verte, on ne connaissait pas trop ni la Carpa, ni le format de la Station Poética. Et donc après... Et ce qui était très marrant, je pense, lors du premier Station Poética, plusieurs personnes de la Goutte Verte ont participé. Il y avait Aline qui a lu un poème en arabe. Il y avait Thibaut qui a lu, je ne sais pas, Le bateau ivre de Rimbaud. Il y avait deux ou trois personnes qui ont participé. Quand
oui,
même.
Ça fait plaisir.
Et oui, comme ça, spontanément. Et ça, c'était très, très chouette.
C'était les tests.
C'était un peu le test. Oui,
parce qu'on
ne savait pas
de
trop.
Cette proposition. Et Stéphanie nous dit, bon, on va faire quelque chose ensemble pour voir comment, c'est qui, de qui se traite.
Vous êtes qui? Vous faites quoi?
Ouais.
C'est quoi ce groupe? Je ne comprends rien.
Très bien. Et donc, justement, on va aborder la Carpa de cette année, Voces de la Diaspora. Mm-hmm. Est-ce que Ivan, tu peux nous expliquer, ou Alcides aussi, pourquoi est-ce que cette année, ça tourne autour de la diaspora? Est-ce que c'est les événements politiques qui font que c'est actuel? Ou est-ce que c'est aussi une empreinte commune de la CARPA de parler de diaspora, du fait même de cette multiculturalité, multilangue, multi-identité?
Bah, cette année, je pense que c'est Ivan qui a choisi le titre de avec la carte avec Canola, qui c'est notre qui fait partie aussi de la CARPA. Et après, il nous a expliqué, voilà, et on a dit que c'était super. Et comme je disais tout à l'heure, diaspora, ça veut dire beaucoup de choses, justement. Et pour les gens qui nous sommes là, et pour les Français, que, voilà. Et cette année, bah, je trouve que c'est, vu le contexte actuel, c'est très important, je crois. Et c'est la 12e édition, donc voilà, on est content. Voilà, c'est toujours chaque année un projet et qu'on commence déjà depuis un mois ou quelques à travailler. Donc voilà, on vous attend quoi.
Très bien.
Dimanche prochain, ouais.
Et Ivan, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette CARPA de cette année?
Cette année, on a, dans la dernière réunion, on a dit qu'il y aura aussi. Pour renforcer l'idée de Carola dans le programme, qu'il y aura aussi un moment de témoin. Parce que la diaspora n'est pas un déplacement biologique. Il y a un déplacement avec des expériences, avec un contenu de chaque être humain. Et que nous voudrions aussi savoir comment les gens qui viennent ont des choses à nous raconter. Qu'est-ce qui signifie pour eux être ici? Parce que c'est un pays aussi, c'est un espace de diaspora,
si.
Paris.
Si.
Et comment ce peintre, avant-hier, j'étais dans une exposition d'un compatriote, j'utilise compatriote sud-américain, parce que c'est plus large, et il est peintre.
Chico Ventura?
Et non, il est Gustavo Linares. Et par exemple, il est passionné de l'Afrique, il est sud-américain, quel est son impact aujourd'hui dans cette diaspora, comment se réalise ou pas, et des gens qui sont venus avec un rêve, s'ils s'approchent, s'éloignent, c'est intéressant à savoir, non? Et je pense que cette proposition ouvre une participation d'un autre protagoniste, que c'est les gens de notre compatriote. Et pas compatriote, bien sûr, compatriote de la diaspora.
Très bien, je vois.
Oui.
Donc c'est un peu un open mic ou...
Oui, il y aura... Et toujours, il y a non, un micro abierto, comment ça s'appelle, quartier libre, non? Il y a une participation de...
Oui, pour c'est un restaurant associatif, non, quartier libre.
Non, l'espace de micro libre.
C'est le concept open mic.
Open mic, non.
Open mic.
Oui.
Il y aura ça. Si les gens veulent raconter, parce que l'espace, c'est sinon peut dire un poème, quelqu'un a lecture un texte, mais qui participe, c'est ça.
D'accord. Donc une libre participation, exactement. Une collaboration aussi avec le public. Donc je vous rappelle, Voces de la Diaspora, c'est le 22 septembre à 16h. Il y aura des choses, il y aura aussi un peu de choses à manger et à boire.
Buffet.
Pas sûr.
Toujours.
Toujours, d'accord. Pour tenir tout ce public.
C'est un dimanche.
Ouais, c'est un dimanche. C'est dimanche prochain. Au CICP, donc voilà, 21 Terre. Rue Voltaire, dans le 11e métro.
Il y aura des musiciens, un type de théâtre aussi.
Et on aura Adam Matos qui s'est déjà engagé.
Oui, bien sûr.
Très bien. Donc là, je propose, afin de susciter l'envie également de venir et de participer, qu'on fasse un peu des lectures de poèmes qui peuvent ou pas paraître, mais qui sont typiques un peu de l'esprit CARPA. Donc on va commencer avec Alcides, qui va nous lire un poème en guarani. Peut-être qu'avant, tu peux nous traduire le titre. Et après, tu nous expliques un peu de quoi ça parle et on te laisse parler en guarani.
D'accord. C'est un poème de Susi Delgado. Voilà, c'est un des poètes les plus connus au Paraguay. Mm-hmm. Et voilà, c'est un petit poème en guarani. Après, je fais la traduction en espagnol. Je n'ai pas malheureusement la traduction en français, mais... Et voilà, ce poème-là, elle a dédié aux femmes. Donc, et il s'appelle « Owapuha Wibé » desde que se sienta. C'est le titre en guarani ou en espagnol. « Ha'e ohecha ko'ubu ari ojehuba. Ro'u ha buru'ai ohasaba ohobo. Ojapo tembiura. Oitupei ojao johei. Omokambu imembu ha omboe mitanguerape. Boehao boriahumime o wapu hawibe. Ha kwarahu ojaububo. Opavo hembiapoita. Ojahu baibai. Ijapukawi. Hendami ombu. Ji va wibe. Ohaaro juva oiporiahu berekoba. Ohupi vaera. Omoi chupe hupamime. Le guarani, il est très guttural, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et la prononciation, c'est on ne le pratique pas, on ne dirait pas que je le perds, mais c'est voilà, c'est très pas. Difficile. Ouais. Et là, je fais la traduction en espagnol. Ella ve lo que ocurre sobre la tierra, el frío y el calor que van pasando. Prepara la comida, barre, lava la ropa, da de mamar a su hijo y enseña a los niños en la pobre escuelita desde su silla. Y cuando el sol se agacha, cuando acaban sus tantas labores, se baña mal que mal, desde su silla, desde su lugar rodante, esperando unos brazos compasivos que la levanten y la dejen en su camita. Esa es la traducción en español. Que Susi l'a dédié à ses amies femmes, quoi. C'est un peu féministe.
On l'a compris. Ouais. On l'a compris. Donc, on va faire la lecture à double voix. Je commencerai en espagnol à un poème qui s'appelle Migrantes, dont l'auteur, je ne l'ai pas sous la main. Donc, je lis en espagnol et toi, tu liras en français. Cuando el sol deje de iluminar, ahí estaré. Cuando te canses de nadar, ahí estaré. Tumbado sobre tu silla, ahí estaré. Cuando el viento te dé cosquilla, ahí estaré. Estaré pasivo detrás tuyo, soy la gota del diluvio. Estaré escondido en la sombra, soy un genio sin alfombra. Estaré sentado y callado. Soy la guerra sin arma y sin bando. Estaré y quizás ya no esté. Soy la llama que siempre arde.
Ok. Le titre en français, c'est Migrant. Quand le soleil cessera de briller, je serai là. Quand tu seras fatigué de nager, je serai là. Allongé sur ta chaise, je serai là. Quand le vent te caressera, je serai là. Je resterai immobile dans ton dos. Je suis la goutte d'eau du déluge. Je resterai enfoui dans l'ombre. Je suis le génie sans tapis. Je resterai assis et en silence. Je suis la guerre, sans armes et sans camp. Je resterai, et peut-être que je ne serai plus. Je suis la flamme qui ne cesse de brûler.
Très bien.
Bon. Maria Reyes.
C'est bon.
C'est
bon. Bravo. C'est bon.
Donc voilà, comme son nom l'indique, Migrant, c'était un poème visuel d'après une photo où on voyait justement en premier plan un migrant sénégalais, un vendeur ambulant sur la côte andalouse, et en deuxième plan, on voyait un touriste qui était allongé. Donc c'était un dialogue de ce migrant envers ce touriste. Alors, Ivan, tu fais une petite lecture également.
Tu sais, ça a été une idée aussi de faire des flyers avec des poèmes. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas les jeter à la
pas tout de suite, pas tout de suite. Précieux. Ils ne peuvent pas écrire quelque chose au dos non plus.
Il y a un poème. Ah d'accord, je vais les garder, m'a dit. Tu vois, c'est quelque chose, en plus comme ce sont des poèmes si rapides,
ouais.
Je pense que ça, il y a un effet.
Très bien.
Mais tu peux lire, parce qu'on a...
Très bien, on y va. Alors, c'est une cloche de deuil de Fernando d'Almeida. Une cloche de deuil a sonné au seuil de l'exil. Et la tornade du matin a tonné vers la mer, tu marcheras le cœur au poing. Tu marcheras un soir, la mer colla du veuvage. Sur le désert nostalgique de ta naissance, une cloche d'alarme qu'emporte l'aigreur des mots ongres. Tu seras ici, au carrefour des vents dénudés, sur la barque qui tangue, sur la pirogue qui chavire, et tu viendras au bout du petit matin.
Merci beaucoup. Oui, on peut applaudir. Très bien. Et Ivan, tu...
J'ai un problème, mais ce n'est pas la traduction, parce que c'est le dernier petit livre.
D'accord, mais tu peux le lire en espagnol.
Tu peux me le traduire, en tout cas. Il parle justement de la poésie, qui s'appelle « Resonancia ». Si la poesía calla, surge la niebla. Si la palabra no escala, la bala despierta. Cuando la mirada se opaca, a tientas la tierra. Hermanos píos, de la capilla Girón, la séptima avenida, congregación de la esquina, camaradas de a pie y de piel, ruteros del día a día, para que el invierno no quepa, ni el silencio roa la voz, bulla de argumentos, lluvia de swing y de son, danza libre de calaveras, parque de fibras, razón de cerezas.
Très bien. Et l'auteur, Ivan Blas. Bien entendu.
Je peux assumer. Parce que Maria aussi, elle nous surprend, parce que ce poème a été une anecdote, parce qu'elle m'a dit, j'écris quelque chose, hein. Tu peux me le partager. Et il me le moi, je le partage avec les groupes, et tout le monde a dit oui.
Et moi, grâce à elle, que j'ai connu le concept de photopoésie, par exemple, ouais. Je ne savais pas.
Oui, c'est
et hier, elle me fait un message de Maria, et en disant, que tu peux te présenter en trois lignes, je le fais. Mais après, il me dit, tu écris? Il me pose la question si je écris des poèmes. Et je dis non.
Mais peut-être que maintenant...
Voilà, l'idée qu'elle nous a montré les photopoésies, oui, pourquoi pas vrai. Parce que en fait le visuel te donne des idées que tu peux écrire, donc c'est intéressant.
Oui, mais c'était ça en fait.
Oui, c'est aussi.
Okay, ouais, je
ah, c'était cette image là.
Voilà.
Oui.
Ah oui, oui, très bien.
C'est difficile de retranscrire.
Il y a un dialogue entre deux.
Voilà. C'est difficile
d'arriver impersonnel, non, quand tu le sens que quelqu'un qui parle.
Moi, je vous amènerai de la poésie érotique de mon compagnon qui est décédé. Tu sais, lui, il écrivait beaucoup de théâtre et beaucoup de poésie. Et la poésie érotique est drôle, la sienne. Elle est très, très drôle.
Non, mais Adamantus, tu es déjà très drôle.
Essentiellement, elle est chouette.
Ce sera la carpe érotique.
Pourquoi pas?
On a renoncé à ça, Ivan.
Ça, c'est un prisme, tu vois, qu'on n'avait pas.
encore peut-être assez. Mmh. Hein,
très bien. Et tu écris, toi, Ramon?
Moi, j'écris, oui, mais ce n'est pas, c'est pas du tout à cet auteur-là. Non, non. J'ai toujours vécu avec des gens qui étaient beaucoup plus grands que moi. Mmh. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça nous tire vers le haut. Mmh. Donc, c'est une chance.
Mais voilà. C'est une mauvaise chose aussi, parce qu'on se compare tout le temps, non?
Oui, on se compare tout le temps. Mais c'est bien, ça nous oblige à travailler encore. Il faut bosser. C'est très bien.
Si on écoutait Cáceres maintenant.
Oui, très bien.
Formidable. Juan Carlos Cáceres.
C'était Cáceres, donc je ne me souviens plus du titre. Ah, voilà.
Très bien. C'est chouette. C'est un mot d'encouragement. et un mot de ralliement. On faisait beaucoup ça pendant les carnavals, juste les 15 jours avant. Comme on fait encore aujourd'hui en Uruguay, on fait des appels. Mm-hmm. Et donc, dans la ville, comme les Noirs qui étaient chez nous des esclaves, hein, qui étaient venus de force et par les bateaux, donc on les avait installés en ville, hein, à Buenos Aires. Basiquement à Buenos Aires, oui, voilà. Mm-hmm. Enfin, je parle d'Argentine. Donc. Et donc, à partir de là, bien sûr, à Montevideo, en face, en Uruguay. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Communiquer par tambour. Mm-hmm. C'est-à-dire que les sons, tu vas faire des appels, mm-hmm. et ils se répondaient d'un endroit à l'autre. Mm-hmm. Et donc ça leur permettait, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'écrire ni de se déplacer, sauf que les patrons leur permettent. Et donc ils communiquaient par les tambours. Et c'est un hommage qu'il a fait Juan Carlos Cáceres, cet immense homme de tango argentin qu'on a très peu connu en Argentine par rapport à l'envergure qu'il avait. Je trouve qu'on n'a pas assez honoré. Et c'est quelqu'un qui nous a rappelé cette partie de l'histoire de l'Argentine. Et il ne faut pas oublier que nous faisons partie de ces pays tristement connus pour être un des derniers à donner la liberté aux esclaves. Oui. Et c'est pourquoi les Noirs ne sont pas restés chez nous. La population afro-américaine a fui l'Argentine parce que nous étions un pays esclavagiste. Donc, on a perdu aussi la musique et le sens du rythme qui nous ont laissé avec le tango et la milonga. Donc un hommage à Juan Carlos Cáceres et par lui, grâce à lui, al tango negro, c'est-à-dire le tango d'influence africaine. Merci Juan Carlos.
Très bien, merci pour cette précision. Alors je vais vous donner rapidement la parole. On va suivre le même ordre qu'on avait suivi au début. Donc, un petit mot de la fin, Stéphanie.
Oui, ben, je ne sais pas exactement quoi dire comme mot de la fin, sauf que rendez-vous au 22 septembre pour cette carpa littéraire. Je pense que ça va être vraiment un après-midi et une soirée de très, très riche d'échanges et de créativité. Voilà.
Très bien. Donc, Stéphanie, on reste en contact, notamment pour la sortie de ton livre. Ada, un petit mot de la fin et tu peux donner peut-être des infos si on veut te suivre, parce que tu es également musicienne.
Moi, j'ai mis un petit peu de travaux, mais pas grand-chose vraiment en ligne. Donc, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Hein. Alors, vous avez Maizikanf, qui est un lieu que les jeunes artistes français, et moi, je m'ai collado, je me mettais allá dentro, parce qu'ils sont tous jóvenes. Mais moi, voilà, je suis quand même rentrée comme ça clandestinement. On a l'habitude d'aller latinos, on est terrible. Donc je suis rentrée dans ce site internet qui s'appelle Maizik Inf, donc Maizik, la musique, Inf information, et Adamatus, ADA et Mathéus. Et vous avez aussi le groupe de rock, parce que aussi j'ai fait du rock, du métal, donc avec des amis français. Parce que j'adore travailler avec les Français, ils sont vraiment de très bons collègues. Et donc, on avait fait Los Zappa, comme Frank Zappa, un hommage à ces grands musiciens. Et donc, Los Zappa avec double P, Patistas, et un hommage, bien sûr, au mouvement mexicain. Donc, très Los Zapatistas, vous les trouvez aussi sur MyZicam. C'est gratuit, c'est ouvert. C'est pour tout le monde, pour vous tous. Bisous.
D'accord, très bien. Si vous avez des questions, tribunalat@gmail.com. Alcides.
Bah, on vous attend le dimanche prochain, le 22, la carpa, c'est, voilà, pour vous amuser. Voilà.
Et vous écouterez encore de la poésie guarani qui peut-être sera traduite.
Oui,
voilà. On va essayer. Là on n'avait pas la traduction sous les yeux. Et Ivan, petit mot de la fin.
Oui, c'est l'espoir que cet événement soit chaque fois plus à nous et... Il y aura des surprises, comme c'est une conception. Il y a des personnages qui apparaissent. Et...
Tu parles de Ada, là.
Non, de manière générale, ça se passe bien. Et justement,
c'est l'onomastique de Ada.
C'est la fête de la culture, pour tous. Voilà.
C'est formidable. C'est aussi CICP.
Oui.
Alors n'oublions pas que c'est sur ICP hein, cette fois-ci, le 22 à partir de 16h.
Très bien, super, on y sera. Et maintenant, on reste tous très muets et très sages parce que Lise va parler. Elle a un communiqué à lire. Et
qui vient d'Argentine, qui d'ailleurs, vient d'Argentine. De Patagonie, plus exactement.
Argentine. Très bien.
Voilà. Aux sœurs, aux frères, à toutes et tous du territoire Mapuche, Walmapu, et aux personnes conscientes étant contraint d'assumer une clandestinité imposée par le pouvoir politique et judiciaire de l'Argentine, Puel Mapu, 1 an et 7 mois après la répression brutale dans la communauté Lafken Winkul Mapu, survenue le 4 septembre 2022, des petites filles et des petits garçons et l'autorité ancestrale, la guérisseuse Machi Betiana Colhuanahuel, ayant été victime de tirs et de répression, et le site sacré qu'est l'hôtel Rewe, ayant été profané, je déclare. Le Rewe est un site sacré érigé par les communautés de Rio Negro, Neuquén et Chubut, par des frères et sœurs de la Pampa et de Buenos Aires, et qui ne peut être détruit par le système ni par l'État. En 2017, la province de Rio Negro lui a tiré dans le dos. Cependant, sa force et son esprit vivent et vivront toujours. L'État, les parcs nationaux et les sociétés immobilières de John Bresham ont financé cette expulsion brutale en 2017. C'est pourquoi nous poursuivrons cette clandestinité avec dignité et avec le soutien de toutes les forces du Puel Mapu. Nous remercions les sages Piancuzis et dirigeants Lonco de Neuquén, Rio Negro et Chubut qui continuent à nous soutenir dans cette lutte. Bien des choses se sont passées. Cela fait 1 an et 7 mois que nous sommes dans la clandestinité et nous continuerons à résister pour la reconstruction de notre peuple et pour que continuent d'être présents nos Lonco, Machi et Piancuzis. Notre lutte n'est pas contre les quartiers pauvres, ni contre la classe moyenne, non plus contre une autre communauté. En tant que Loflafken, Winkul Mapu, notre lutte est pour le Rewe et pour ce territoire sacré où vit la force du guerrier d'autrefois, Weishafe Yem. Nous protégeons la biodiversité, toutes les formes de vie, les lacs, l'eau, et nous continuerons à les protéger. Nous restons fidèles à nos pensées et à l'union qui fait notre force. Que notre peuple Mapuche Tehuelche, Mapuche Lafkenche, Mapu Rankulche continue à se révolter. Que l'union continue, que l'assemblée Traun continue à avoir lieu dans différents endroits. Si un frère ou une sœur veut parler à l'un d'entre nous, il peut le faire par le biais des paroles ancestrales et du langage ancestral, parce que nous nous battons pour tout le Puel Mapu et le Chili Gulu Mapu, et nous laissons toutes nos énergies pour la terre Mapu, pour chaque espace contre l'exploitation forestière, minière, pétrolière, les barrages, et nous continuerons de soutenir tous les territoires dans cette lutte. Nous tenons pour responsables l'État, les forces de la répression, Patricia Bullrich, les propriétaires terriens comme John Grejan et Diego Frutos, les gouverneurs et maires de Rio Negro, Neuquén et Chubut. Non à la persécution politique, oui à la dissolution du commandant unifié dans la Loflafken Winkul Mapu. Non au montage contre la Loflafken, Winkul Mapu, avec la collaboration des médias hégémoniques qui interviewent Diego Frutos, qui dénonce mensongèrement, rémunéré par les multinationales, rémunéré par les intérêts immobiliers. Plus d'expulsion des territoires Mapuche.
Voilà. J'enchaîne.
Oui. Je vais enchaîner avec l'agenda militaire. Je voudrais dire aussi que au Chili, c'est extrêmement pareil. La répression, c'est le territoire Mapuche est occupé militairement. C'est une véritable occupation militaro-policière avec des drones, des hélicoptères. Un des dirigeants de la coordination, Arauco Mayeco, a été criminalisé judiciairement. Il est condamné à 23 ans de prison politique. Et il a fait une grève de la faim de 86 jours. Et c'est une sénatrice qui est intervenue pour le Au bout de 86 jours, sa vie était vraiment extrêmement en danger parce que ce n'était pas la première grève de la faim qu'il réalisait. Malheureusement, il s'agit d'Hector Yaitul Karyanka, et dont des fils eux-mêmes sont également, ont été inculpés. Il y a eu un long procès cet été, et finalement, alors qu'ils avaient été inculpés et risquaient d'être condamnés à 15 ans de prison, ils ont finalement été innocentés parce que tout était basé sur des montages de la part de la police politique, la PDI chilienne. Et quant à Hector Yaitul, la sénatrice qui est venue le visiter et le convaincre de suspendre sa grève, elle s'est portée garante pour se mobiliser parce que sa grève de la faim était motivée par le fait d'être plus détenu dans une prison de droit commun, mais dans une prison dédiée aux prisonniers politiques mapuche qui se trouvent à Temuco. C'était sa simple demande. Et voilà, donc on continue à soutenir cette lutte. Nous avons une observatrice, une juriste internationale, Mireille Fanon-Mendès France, qui va partir là-bas à la mi-octobre pour justement aller les visiter, faire pression, nous l'espérons, sur le gouvernement de M. Boric. Voilà ce qu'il en est. Et donc, autant en Argentine, avec Milei, c'est l'horreur, quoi. C'est la répression ignoble, avec appuyée par tous les puissants de chacun de ces pays. Voilà. Ouais, je passe à l'agenda. L'agenda va commencer donc demain, lundi 16 septembre, à partir de 19h, avec une rencontre avec Dominique Grange et Jacques Tardy, à l'occasion de la projection du film « N'effacez pas nos traces » de Pedro Fidalgo, et qui sera suivi d'un débat avec le réalisateur. Ça va se passer à la Maison d'Amérique latine, 217 boulevard Saint-Germain, Paris 7e, métro rue du Bac ou Solferino. C'est donc à partir de 19h, après-demain, lundi, pardon. Mardi 17 septembre, à la Gaîté Lyrique, de 19h à 22h, on pourra voir la projection de La Kazakh et Ardé. C'est un documentaire du réalisateur Thomas Defler, qu'on a déjà accueilli ici, il y a plusieurs mois. La Gaîté Lyrique, je rappelle, c'est 3 bis rue Papin, Paris 3e. Le métro le plus proche, c'est métro Réaumur-Sébastopol. L'histoire de... C'est un documentaire. Il s'agit se reporter au Chili en 2022, où une nouvelle constitution doit voir le jour. Entre micro-histoire et histoire globale, ce documentaire en forme de poème visuel nous place dans le sillage d'un groupe d'amis, citoyens et citoyennes, artistes en lutte pour la défense d'un avenir plus juste. On y découvre Cutral Vargas Waikimiya, poétesse transgenre et mapuche qui raconte les transformations que traverse son pays à l'approche du vote et livre des textes qui permettent la circulation d'idées plus universelles entre ce que nous voulons et ce que nous pouvons réaliser. Le co-auteur de ce documentaire est Emmanuel Farias Carion, qu'on avait également accueilli dans cette émission. Mercredi 18 septembre, à partir de 18h30, aura l'association uruguayenne Donde Están présentera le livre Le plan Condor en procès de Francesca Lessa. Ça aura lieu à l'espace solidaire 31 rue de la Grange-Aubel, Paris 10e, métro Colonel Fabien. Jeudi 19 septembre, vernissage de 17h30 à 20h30, 58 rue Quincampoix, Paris 4e. Il s'agit des territoires dénaturés, enquête sur la France nucléaire, avec des photographies de Nicolas Gaillon. L'association qui organise ça, c'est Pour que l'esprit vive, et la galerie Fait et Cause, qui nous invite au vernissage de cette exposition. Elle aura lieu donc du vendredi 20 septembre au samedi 9 novembre 2024, du mercredi au samedi de 13h30 à 18h30. Donc voilà, je répète l'adresse, 58 rue Quincampoix, Paris 4e. Mercredi 25 septembre, ah, j'oubliais, on m'a envoyé là, tout à l'heure, une information, une invitation. C'est donc le 21 septembre, la Fonda Autogestionada de Paris, traditionnelle chilienne autogestionnée à Paris. Ça aura lieu au vaisseau, comme un bateau, 73 rue des Quatre Ruelles à Montreuil. Je répète, 73 rue des Quatre Ruelles à Montreuil. C'est à 15 minutes à pied du métro Croix de Chavaux. Ça a lieu donc samedi 21 septembre à partir de 14h jusqu'à minuit. Il y aura un groupe de cumbia psychédélique non-stop, Los Huracanes. Il y aura aussi Los Prisioneros Rock Pop et Reggae qui s'appelle Maldits Sugdax. Il y aura aussi la cueca, musique populaire, duo Calandria, et enfin Marcus Soto, que nous connaissons bien parce qu'il il suit toutes les grandes mobilisations chiliennes. Marcus, c'est le chant populaire sud-américain. L'entrée prix libre, empanada solidaire, chapeau pour participation et barbecue collectif. Voilà. C'est 21 septembre, donc c'est samedi prochain. Je continue cet agenda très riche. Mercredi 25 septembre, à partir de 19h jusqu'à 22h, à Paris Anime, il y aura l'association 24 août 1944 nous invite à la projection débat La dictature franquiste en procès. C'est un documentaire de Dietmar et Lucia Palacios. Et entrée gratuite. Et c'est 2-4 rue des Lilas, tout à fait à côté de la place des Fêtes. Voilà. Samedi 28 septembre, donc, à la Parole Errante, ça c'est aussi important, 9 rue François de Berg à Montreuil, le collectif Ayonisinapa Paris va donc organiser un événement très important pour les 10 ans de lutte et de résistance contre la violence d'État au Mexique et en anniversaire à la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa. Voilà. Je pense que j'ai le texte de... Je vais le lire rapidement. Voilà, parce que je me suis engagée à le lire, voilà. Cela fait maintenant 10 ans que les 43 étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa, état de Guerrero, Mexique, ont été victimes de disparitions forcées par la police et l'armée mexicaine le 26 septembre 2014. Jusqu'à aujourd'hui, aucun gouvernement n'a cherché à faire la lumière sur l'affaire. Ces 10 ans d'impunité ont dévoilé la violence du narco-État mexicain. On compte plus de 100 000 disparus et plus de 350 000 personnes assassinées depuis le début de la soi-disant guerre contre le narcotrafic en 2006. Plutôt que de traduire en justice les membres des plus hautes sphères de l'armée et de l'État fédéral, le gouvernement actuel continue de criminaliser les familles des personnes disparues, les collectifs de soutien et les défenseurs et défenseuses de droits humains. Il protège bec et ongles l'armée et consolide son pouvoir en lui octroyant la gestion logistique, sécuritaire et économique des grands projets inutiles. Depuis Paris, nous continuons de soutenir les familles qui cherchent leurs disparus et qui exigent inlassablement que justice soit faite. Leur lutte marque un tournant historique dans les mobilisations du Mexique et d'ailleurs. Malgré l'impunité pesante et la violence incessante, ce n'est pas dans le désespoir que nous appelons à nous rassembler à 10 ans de la disparition de nos camarades. Depuis 2014, des liens se sont tissés entre plusieurs luttes contre les violences d'État et les violences policières au Mexique et ici en France. Nous avons créé des espaces de parole et de solidarité pour les familles des victimes de disparitions forcées depuis la Méditerranée jusqu'en Amérique centrale. et nous avons rencontré et soutenu d'autres luttes qui nous nourrissent. Nous vous invitons donc à faire de ces 10 ans une célébration pour la vie, pour la mémoire, pour la solidarité internationale et pour faire de notre rage et de notre douleur une joyeuse rébellion. Rendez-vous le 28 septembre à La Parole Errante, 9 rue François de Bergue, à Montreuil, métro Croix de Chavaux. Au programme, à 16h, ouverture des portes, bar expo projection, à 18h, prise de parole, à 19h30, piñatas, avec rage et joie, 20h30, concert La Mana, 21h30, concert Los Burritos de Belleville, c'est une salsa, et à 23h, Maye DJ 7 Latino et Féministe. Voilà. Prix libre, bar et cantine sur place. C'est terminé. On a bouclé le.
Oui, on a réussi à tenir dans les temps. Ben, merci beaucoup à tous.
Merci à toi.
Et à très vite.
Je vais finir peut-être avec le morceau qu'on m'avait demandé. Et puis, bah, pourquoi pas.
Elle s'appelle Bidon, 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 Bidonville. Vivre là-dedans, c'est coton. Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Dans les chambres, l'herbe pousse. Pour y dormir, faut se pousser. Les gosses jouent, mais le ballon, c'est une boîte de sardines. Bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Regarde-la ma ville. Elle s'appelle Bidon, 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 Bidonville. Me tailler d'ici, à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions, je reverrai toujours, toujours Bidon. Camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir. Je te dis à bientôt, 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 on pourra se parler camarade. Bientôt, bientôt, on pourra s'en passer camarade. Bientôt, bientôt, les oiseaux, les chemins, les cascades. Regarde-la ma ville, elle s'appelle Bidon, 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 Bidonville. Vivre là-dedans c'est coton. Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Dans les chambres l'herbe pousse, pour y dormir faut se